Les grands titres de ce dimanche 18 décembre. Le premier ministre Malcolm Turnbull donne son support au passage de l'Australie de monarchie à république. En Syrie, des milliers de personnes attendent que l'évacuation recommence pour quitter Alep. Et en France, ce sera 7 candidats qui s'affronteront à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2017. Le premier ministre Malcolm Turnbull a pris la parole lors du 25e anniversaire du Mouvement républicain d'Australie, demandant aux membres de se préparer à un éventuel passage de monarchie à république pour le pays. Le premier ministre a dit que le chef du pays devait être un Australien, mais il ne croit pas que ça arrivera durant le règne de la reine Élisabeth II. Il a dit que le nouveau modèle de république doit être réfléchi et doit inclure un plébiscite. Il croit que de faire de l'Australie une république est réaliste.
House by house, street by street, suburb by suburb, we must make the case to our fellow Australians that we deserve one of our own as head of state. Right now, an Australian republic is not inevitable, but we can make it so by working together on this great unfinished business for our nation. You are on the right track. There will be unexpected obstacles along the way, but great and unexpected opportunities as well. So keep the faith. Advance Australia. Up the republic.
Le premier ministre Malcolm Turnbull. Le mouvement républicain d'Australie s'est dit très heureux de la présence du premier ministre à leur événement. Son directeur, Tim Mayfield, a dit que le discours de Malcolm Turnbull était significatif et que l'avenir est prometteur pour l'organisation.
I think the signs are really good. Of course, any constitutional reform requires political will, and with the prime minister as well as the opposition aligned now on the issue of a republic, that's a really great start. Polling's already above 50%, according to the most recent news poll on the issue. And from a movement perspective, our membership ranks have been rising steadily over the last 18 months.
Le groupe pro-monarchie Council of United Commonwealth Societies of Tasmania s'est dit choqué que le premier ministre soit rendu à l'événement. Mais son porte-parole, Reg Watson, a dit que vu l'impopularité du premier ministre, il n'avait pas de raison de s'inquiéter.
The Republican movement thinks it's a big find in having him. Well, okay. But the fact of the matter is, I do believe that if we had another referendum on the subject, the same result would occur as it occurred in 1999. Now, it may be okay to be positive for the Republican movement to have Mr. Turnbull as a guest speaker, but in reality, I don't think anything has changed, nor has the public acceptance of a proposed republic for Australia.
Reg Watson du Council of United Commonwealth Societies of Tasmania. Le trésorier Scott Morrison fera une mise à jour de mi-année à son budget demain. Le ministre des Finances, Matthias Cormann, a dit à Sky News que le gouvernement continuait à travailler à rééquilibrer le budget.
We've been able to legislate or implement more than $22 billion in additional budget improvement measures since this election. The net effect of all of our policy decisions on the spending side of the budget since we came into government in 2013 is a $250 billion improvement to the budget bottom line over the medium term. That is money that we either don't have to borrow or that can be used, once we are back in balance to pay down debt.
Le leader des Verts, Richard Di Natale, a dit à ABC que les finances du pays étaient dans un très mauvais état.
I think they're so internally distracted at the moment that they're unable to outline a very clear vision for what Australia's economic future looks like. They've got no real plan. They've got no concrete proposals to address the issue of revenue. In fact, their proposal is to give a great big tax cut to corporate Australia at a time when revenues are down.
Le leader des Verts, Richard Di Natale. La leader du parti One Nation, Pauline Hanson, doit révéler aujourd'hui ses candidats pour l'élection au Queensland. Elle devrait présenter 36 candidats aujourd'hui et le parti devrait ultimement avoir un candidat dans chaque électorat. Selon les derniers sondages, le support pour le parti One Nation est en hausse au Queensland. L'élection devrait, elle, avoir lieu au début 2018. Passons à l'international maintenant. En Syrie, des milliers de personnes tentent toujours de quitter la ville assiégée d'Alep, attendant que l'évacuation recommence. 6 000 personnes auraient pu quitter la ville avant que l'évacuation soit arrêtée vendredi, laissant des milliers de personnes, incluant des enfants, coincés dans la ville. Ewan Watson est le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge.
We've heard some signals that that we hope will turn into real concrete action, but so far the agreement between the parties involved has not happened, and we're currently waiting. And the problem with that is, of course, it's not us. It's the people in East Aleppo who desperately need care, they need food, health care, they need the humanitarian assistance at the moment they're not getting.
Ewan Watson, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. En Turquie, une explosion a tué au moins 13 soldats et en a blessé 48 autres. La bombe aurait été placée dans une voiture piégée. Le week-end dernier, 44 personnes, dont 36 policiers, ont été tuées dans d'autres explosions, cette fois-ci à Istanbul. Pour Behram Balci, chercheur au CNRS et spécialiste de la Turquie, ces attaques répétées sont une exportation du conflit syrien en Turquie.
Il y a deux organisations susceptibles d'organiser un tel attentat, c'est le PKK ou le Daesh. Or, les méthodes du Daesh sont beaucoup plus aveugles, elles ne sont pas de ce style-là. Elles visent beaucoup plus les populations civiles, donc là, on a l'impression que c'est plutôt l'œuvre du PKK. La manière dont ça a été organisé, ça vise un objectif tout à fait militaire, donc c'était des soldats qui partaient en permission. La méthode employée est exactement la même que celle qui a été utilisée la semaine dernière dans l'attentat d'Istanbul, où là, pour le coup, ça a été revendiqué, donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et ça montre à quel point l'État turc est complètement désemparé face à cette mouvance qui est devenue très, très puissante, très bien organisée, et qui est alimentée aussi par le chaos qui prédomine en Syrie.
Behram Balci, chercheur au CNRS, au micro de RFI. En France, ce sera 7 candidats, 4 socialistes et 3 membres d'autres partis qui s'affronteront à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2017. 2 candidats socialistes ont toutefois été recalés, Gérard Filoche et Fabien Verdier. Reportage de Valérie Gasse.
Thomas Clay, le président de la Haute Autorité des primaires citoyennes, venait d'annoncer la liste définitive des 7 candidatures acceptées quand Fabien Verdier, jeune conseiller municipal de Châteaudun, qui voulait participer à la primaire, est arrivé essoufflé, écarté. Faute d'avoir un nombre suffisant de parrainages, il proteste.
On avait fait un acte de candidature très fort. On est complètement estomaqué face à ces pratiques. On a eu aussi nos parrains qui ont été rappelés pour éviter qu'ils nous parrainent ou qu'ils nous déparrainent. On a eu des rappels comme ça, on a eu des pressions en amont également pour que des parrains ne nous parrainent pas.
Fabien Verdier affirme qu'il a déposé 18 parrainages et manifeste son incompréhension d'avoir été disqualifié, tout comme Gérard Filoche, un membre de la direction du PS qui annonce qu'il va engager un recours.
Je vais le faire porter sur la technique, c'est-à-dire le calcul des parrainages, parce que je ne sais pas comment ça a été fait. Et la deuxième chose, je le pose de façon politique, je veux dire, Jean-Christophe Cambadélis et Christophe Borgel, puisque c'est eux qui ont décidé, je leur dis, écoutez, c'est pas un chiffre entre 7 ou 8, c'est un choix politique que vous avez offert à Macron d'y venir.
Une remise en cause des choix des organisateurs de la primaire, Jean-Christophe Cambadélis en tête, qui avait dit il y a quelques jours que la primaire ce n'était pas open bar, et qui a répondu sur Twitter à Gérard Filoche en écrivant « Arrête ton cirque ». La primaire commence par une polémique.
Valérie Gasse pour RFI. Après Paris, c'est Pékin et d'autres villes chinoises qui sont sous une alerte rouge à la pollution, la première cette année au pays. Une vague de brouillard toxique va s'abattre sur le nord de la Chine pendant 5 jours. Reportage de Heike Schmidt.
Le journal télévisé annonce l'alerte rouge. Pendant 5 jours, les chantiers suspendent leurs travaux. De nombreuses usines ferment et faire du sport à l'extérieur est déconseillé. Sur le canal Liangmahe, dans le quartier Shaoyang de Pékin, la saison du hockey sur glace a pourtant commencé et les joueurs comme Ying Zhetian n'ont pas encore plié bagages.
Je fais du sport pour garder la santé. Si la qualité de l'air se dégrade davantage, j'arrêterai de jouer dehors. Je peux porter aussi mon masque de protection, mais le mieux sera de rester à la maison.
Zhang Shewu met ses patins à glace et lance un brin énervé.
Les émissions des voitures sont une partie du problème, mais dans les banlieues de Pékin, les gens se chauffent encore au charbon. Et puis les mines de charbon de la province voisine du Shaanxi sont exploitées à fond. On a beaucoup d'usines chimiques et d'autres producteurs pollueurs.
Des experts estiment en effet que les mines de charbon et l'industrie lourde dans les provinces aux alentours de Pékin sont à l'origine d'un tiers de la pollution de l'air subie par les 20 millions d'habitants de la capitale.
Heike Schmidt pour RFI. En République démocratique du Congo, les négociations entre le pouvoir et l'opposition pour trouver une sortie de crise politique n'ont pas permis d'avancer hier. Elles reprendront le 21 décembre, soit le lendemain de la fin du mandat du président Joseph Kabila. La Belgique, qui a beaucoup de ressortissants au pays, les encourage à quitter la RDC. Johanna Hochstein explique.
L'avis du ministère belge des Affaires étrangères est tombé hier soir. La Belgique déconseille à ses ressortissants tout voyage vers la République démocratique du Congo. Effet plus exceptionnel, elle appelle les Belges à quitter le territoire dès que possible. Il serait quelque 4000 à séjourner actuellement au Congo, dont 2500 qui vivraient dans la capitale. Les autorités belges craignent un regain de violence à l'approche de la date de fin de mandat de Joseph Kabila. Pour justifier cette décision, elles mettent également en avant l'expulsion de 5 journalistes flamands cette semaine, les rumeurs concernant la fermeture de certains aéroports et la menace du président de bloquer les réseaux sociaux. Inquiétude légitime ou dramatisation de la situation pour accroître la pression sur les autorités congolaises. En tout cas, les relations entre Bruxelles et Kinshasa sont devenues plus tendues ces dernières semaines. La Belgique n'a cessé de demander aux représentants de la majorité d'organiser des élections rapidement. Un message qui reste inaudible à Kinshasa pour le moment.
Johanna Hochstein pour RFI. Jetons un coup d'œil à la météo maintenant avant de passer au sport. Notre magazine sera consacré au foot. Donc à Perth aujourd'hui, un maximum de 25, Adélaïde 27, Melbourne et Hobart 19, Canberra et Sydney 22, Wollongong et Newcastle 20 degrés, Brisbane 30, Cairns 33 et à Darwin 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 18 décembre. Le premier ministre Malcolm Turnbull donne son support au passage de l'Australie de monarchie à république. En Syrie, des milliers de personnes attendent que l'évacuation recommence pour quitter Alep. Et en France, ce sera 7 candidats qui s'affronteront à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2017.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench